Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal présenté par Nanit Salani. Il est 7h00 en temps universel. Au sommaire, les États-Unis demandent aux rebelles du M23 de revenir à leur position de novembre 2023 et soutiennent le cessez-le-feu en cours. En Tanzanie, prison à perpétuité pour 4 hommes impliqués dans un viol collectif. Bamako reporte la rentrée scolaire au 4 novembre en raison des inondations dévastatrices. Les républicains critiquent la réponse de l'administration Biden face à l'ouragan Helene. En MAG, nous ferons le point sur la journée nationale du cacao qui a célébré les acteurs de la filière à Abidjan. En économie, Joe Biden en Angola pour la réhabilitation d'une voie ferrée stratégique pour l'économie mondiale. Et puis en sport, ce sera le témoignage de Claude Kamana sur son ami Dikembe Mutombo, mort d'un cancer, mais d'abord le journal. Le républicain Dedy Vance et le démocrate Tim Walz seront face à face ce soir lors du seul débat vice-présidentiel de l'élection de 2024. Les deux candidats ont passé 2 mois à s'affronter à coups de discours. Alexandrine Olunion nous fait le point depuis New York.
Tim Walz, gouverneur du Minnesota âgé de 60 ans, et Dedy Vance, sénateur de l'Ohio âgé de 40 ans, ont déjà présenté leurs approches depuis des semaines. Walz, avant que Harris ne le choisisse, était le démocrate qui hantait le terme « bizarre » pour qualifier le ticket républicain. Vance estime que le bilan progressiste du gouverneur prouve que les démocrates sont trop à gauche pour les électeurs. Il s'est moqué des états de service militaire de son collègue vétéran. Walz martèle l'opposition de Vance au droit à l'avortement et son point de vue sur la vie familiale. Les deux hommes ont mis en avant leur référence aux petites villes et à l'Amérique moyenne, contrairement à Trump, natif de New York, et à Harris, originaire de la baie de Californie. Le débat organisé par CBS News à New York n'aura peut-être pas les mêmes enjeux que celui du 10 septembre entre Donald Trump et Kamala Harris. Mais il offre aux deux candidats à la vice-présidence une occasion de se présenter au public et remplir leur rôle traditionnel de défendre les intérêts de leur patron. Les deux colistiers auront 90 minutes pour convaincre une audience télévisée énorme avant l'élection du 5 novembre.
Toujours aux États-Unis, l'ouragan Helene a causé au moins 100 morts, semant la désolation dans le sud-est du pays. Cette catastrophe s'est invitée parmi les sujets de la campagne présidentielle, les démocrates rejetant les accusations républicaines sur leur gestion de la crise. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Il y a 600 personnes dont nous n'avons pas de nouvelles, a précisé Liz Sherwood Randall, conseillère à la sécurité intérieure du président américain, disant espérer que certaines de ces personnes soient en vie. Pour l'heure, le bilan des décès s'établit à près de 110, pendant que les secours tentent de retrouver des survivants et d'apporter du soutien aux habitants frappés par les inondations. Le président Joe Biden a pris lundi la parole pour défendre la réponse de son gouvernement face au désastre. Nous allons continuer à apporter les ressources, dont la nourriture, de l'eau, des équipements de télécommunications et de sauvetage, a déclaré le président américain à la Maison-Blanche. Dans le cas républicain, Donald Trump reproche à l'administration Biden de ne pas intervenir suffisamment pour aider les sinistrés. Arrivé lundi dans une zone sinistrée de Géorgie, il a directement accusé l'État fédéral et celui de Caroline du Nord, aux mains des démocrates, de ne délibérément pas aider les gens dans les zones républicaines. La Géorgie et la Caroline du Nord, deux États particulièrement touchés par cette catastrophe naturelle, font partie des 7 États pivots qui pourraient faire basculer l'élection présidentielle du 5 novembre.
Les recherches se poursuivent pour retrouver des éventuels survivants au Népal, où le bilan des inondations a atteint au moins 209 morts, alors que 29 personnes sont portées disparues. Des pluies torrentielles les plus importantes en 20 ans ont causé des glissements de terrain à Katmandou et dans d'autres régions. L'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte prend mardi la tête de l'OTAN pour diriger cette alliance de 32 pays occidentaux. Il succède aujourd'hui au Norvégien Jens Stoltenberg, resté 10 ans à la tête de l'Alliance Atlantique. Julian Assange s'exprimera en public ce mardi pour la première fois depuis sa sortie de prison devant une commission du Conseil de l'Europe qui examinera ses conditions de détention. L'audition portera sur la détention et la condamnation de Julian Assange et leurs effets sur les droits de l'homme. Fabio Lobo, fils de l'ancien président hondurien Porfirio Lobo, a été libéré ici aux États-Unis après avoir purgé seulement 9 ans de prison de sa peine de 24 ans pour trafic de drogue. Fabio Lobo, 53 ans, avait été arrêté en 2015 en Haïti par l'agence antidrogue américaine et condamné en septembre 2017. Sa remise de peine a été accordée après son témoignage dans le procès de son père, condamné à 45 ans de prison pour les mêmes accusations. Depuis 2015, une cinquantaine de Honduriens ont été extradés vers les États-Unis en vertu d'un traité d'extradition.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Washington demande à Kigali de retirer ses 4000 militaires de l'est de la RDC où ils soutiennent les rebelles du M23. Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, exige aussi de Kinshasa de cesser son soutien aux rebelles des FDLR. Les détails avec Eddie Sango.
Les États-Unis demandent aussi aux rebelles du M23 de revenir sans attendre à leur position de novembre 2023 avant leur conquête des vastes pans des territoires. Linda Thomas-Greenfield a rappelé que Washington exige par ailleurs à Kinshasa de prendre des mesures immédiates à l'encontre des rebelles rwandais des FDLR et de cesser de les soutenir. L'ambassadrice américaine a rassuré que les États-Unis apportent soutien au cessez-le-feu en cours ainsi qu'au leadership de l'Angola. Pour ce qui est de l'Ituri, dans le nord-est de la RDC, elle a indiqué que son pays s'inquiète du regain d'attaques contre les civils menés par la milice ethnique Codeco et les rebelles islamistes des ADF. Elle a encouragé à l'élaboration d'un plan clair par Kinshasa avant la poursuite du retrait de la MONUSCO. Enfin, Mme Thomas-Greenfield a rendu hommage à l'ancienne star de la NBA, Dikembe Mutombo, décédée hier à Atlanta.
Au Mali, la rentrée des classes qui était prévue en début octobre a été reportée au 4 novembre en raison des récentes inondations, a indiqué hier le ministère malien de l'éducation. Davantage avec Michel Joseph.
Les inondations ont fait 75 morts et 148 blessés depuis le début de la saison des pluies. Des précipitations exceptionnelles sont les plus importantes jamais enregistrées au Mali depuis 1967. Plus de 250 000 personnes sont sinistrées selon le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Des milliers d'entre elles ont trouvé refuge dans des écoles. Depuis le début de l'hivernage, les pluies diluviennes ont ravagé plusieurs régions du Sahel et d'Afrique centrale, faisant plus de 1 500 morts, touchant 4 millions de personnes et faisant plus d'1,2 million de déplacés. D'après le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, cette annonce du gouvernement malien intervient aussi dans un moment de tension avec les syndicats des enseignants.
En Tanzanie, 4 hommes ont été condamnés à la prison à perpétuité pour un viol collectif qui a suscité l'indignation dans le pays. Les détails avec Nathalie Barche.
Le tribunal de Dodoma a également condamné chaque accusé à verser $365 à la victime. Le parquet a présenté 18 témoins et mis en avant 12 pièces de preuve. Les 4 suspects, arrêtés le 9 août, ont plaidé non coupables. La défense, estimant qu'il y a des défaillances juridiques dans l'acte d'accusation, a déclaré être prête à faire appel. L'agression a été révélée après un message posté sur X le 4 août par Boniface Jacob, ancien maire d'Ubungo, évoquant ce viol filmé en taguant la présidente Samia Sulu Hassan et la police nationale. Il affirmait que ce viol collectif a eu lieu à Dar es Salaam et que les agresseurs sont des soldats. Après enquête, la police a affirmé que les faits se sont déroulés en mai à Dodoma. La police a présenté des excuses après des déclarations de la commandante de la police régionale de Dodoma, Théopista Malia, qui a affirmé dans un journal local que la victime était une travailleuse du sexe et que les faits avaient été commis par des ivrognes ordinaires. Des organisations de défense des droits humains se sont offusquées du fait que la police ait pris ce cas à la légère parce que la victime est une prostituée.
Une frappe aérienne dans l'état de Kaduna au Nigeria a tué au moins 24 personnes, principalement des civils, au cours d'une opération militaire visant des gangs armés le 27 septembre, assurent les autorités.
Voilà pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, tournons notre attention vers les dernières nouvelles économiques. Nous invitons Mouamadou Oufa.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé d'une hausse de 20% du prix d'achat du cacao, selon le ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani. Le prix fixé à 1800 francs CFA, 2,7 euros le kilo, est un montant record après une année où les cours mondiaux ont atteint des sommets. La Côte d'Ivoire vend ses faibles cacao par anticipation et le prix d'achat est fixé par l'État. Il est ainsi moins sensible aux fluctuations du marché. Le président américain Joe Biden se rendra en Angola du 13 au 15 octobre et visitera le chantier de réhabilitation d'une voie ferrée reliant le port angolais de Lobito à la République démocratique du Congo. Les 1300 km de rails achemineront sur la côte atlantique des ressources cruciales pour l'économie mondiale, notamment le cuivre et le cobalt. Le Parlement libyen installé dans l'est du pays a voté lundi la nomination d'un nouveau gouverneur de la Banque centrale, mettant fin à une crise qui durait depuis un mois. Ripostant à l'éviction le 18 août par les autorités de l'ouest du gouverneur Sédik El Kebir, leurs rivaux de l'est avaient stoppé la production et les exportations pétrolières, ce qui a fait chuter de moitié la production à environ 600 000 barils par jour, contre 1,2 million selon la Compagnie nationale de pétrole.
Tout pour les nouvelles économiques. Maintenant, plongeons-nous dans le monde sportif sous la direction de Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Nous consacrons cette page sportive à la triste nouvelle. Le basketteur congolais Dikembe Mutombo est mort hier ici aux États-Unis.
Oui, Dikembe Mutombo, membre du panthéon du basketball américain, est décédé à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer du cerveau. Selon l'annonce faite par la NBA, le Congolais a été sélectionné 8 fois comme All-Star de la NBA, utilisant son énorme gabarit 2m18 pour devenir l'un des plus redoutables bloqueurs de tir de la Ligue. Notre consultant sportif Amdine Sy revient sur l'immense carrière de Dikembe.
L'ancien pivot congolais faisait partie non seulement des meilleurs défenseurs de la NBA, mais est déjà un pionnier puisqu'il fait partie quand même des basketteurs originaires en Afrique qui a été le premier à jouer en NBA. 19 ans en NBA, il fallait le faire et il l'a fait dans beaucoup de clubs, notamment à Denver, à Atlanta, à Philadelphie, à New York et à Houston. 8 fois All-Star, 4 fois meilleur défenseur, ça c'est Dikembe. 3 fois meilleur contreur, 2 fois meilleur rebondeur. Dikembe était tout simplement phénoménal.
Amdine Sy, consultant sportif, après avoir pris sa retraite en 2009, Dikembe est devenu le premier ambassadeur mondial de la NBA et a contribué à promouvoir le sport en Afrique. Joint dans le Maryland, Claude Kamana, président de la communauté congolaise de la région de Washington DC et ami intime de Dikembe, revient sur ses investissements en RDC.
Premièrement, il a construit un hôpital moderne qui, moi-même, j'ai eu la chance, l'opportunité d'aller visiter cet hôpital. C'était sous le nom de sa maman, Marie Biamba Mutombo Hospital. En dehors de cela, Mutombo a beaucoup investi en Afrique. Il a été beaucoup de jeunes talents. Et puis, il a construit une école dans son village natal où il a nommé ça derrière le nom de son papa, Papa Samuel Mutombo.
Claude Kamana, président de la communauté congolaise de la région de Washington DC et ami intime de Dikembe Mutombo.
Dans le reste de l'actualité sportive, Yacouba, Samuel Eto'o, suspendu par la FIFA.
Le président de la Fédération camerounaise de football est suspendu 6 mois de tout match des sélections de son pays pour son attitude lors d'un match du mondial féminin de moins de 20 ans. La commission de discipline de la FIFA reproche à l'ancien numéro 9 du Barça et des Lions indomptables d'avoir enfreint les règles relatives au comportement offensant en violation des principes du fair play et de l'incorrection de joueurs et officiels. Il est reproché à Eto'o d'avoir mis la pression sur les officiels lors du 8e de finale perdu par les Camerounaises contre le Brésil 3-1 après prolongation lors de ce mondial des moins de 20 ans des femmes en Colombie à Bogota. La délégation camerounaise a notamment contesté le pénalty de légalisation des Brésiliennes. La suspension d'Eto'o ne concerne pas ses fonctions de président de la fédération, mais l'empêchera d'assister aux matchs de football masculin et féminin impliquant des équipes représentatives de l'AfricaFoot dans toutes les catégories ou groupes d'âge, a précisé la FIFA.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. Avant de mettre un terme à ce journal, explorons d'abord nos dossiers du jour. Au Togo, une réunion publique au siège de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, parti politique de l'opposition, a été empêchée par des individus non identifiés qui ont exercé une violence sur les organisateurs et les participants. Le député sénégalais Guy Marius Sagna, siégeant au Parlement de la CDAO, la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains CDPA, Kafui Adjamagbo Johnson, député à l'Assemblée nationale, et des journalistes ont été passés à tabac. Il y a eu plusieurs blessés. De Lomé, notre correspondant Kossi Oussou.
C'est une agression d'une rare violence que les invités et les participants à cette réunion initiée par la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, ont été l'objet. Kafui Adjamagbo Johnson, secrétaire général de la CDPA et député à l'Assemblée nationale du Togo, sérieusement molesté, dit ne pas comprendre ce qui s'est passé.
Il y avait une de ces violences dans leur réaction, dans les coups qu'ils nous ont assénés. Ils nous envoyaient les chaises, des briques qu'ils ramassaient, tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour nous blesser et nous mettre à terre. On voyait qu'ils étaient capables de nous tuer.
En ces jours, dans la capitale togolaise, dans le cadre de la session extraordinaire du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le député sénégalais Guy Marius Sagna, siégeant également au Parlement de la CEDEAO, invité à cette réunion publique, en a eu pour son compte et ne cache pas sa colère.
Ce qu'il faut retenir de la violence d'aujourd'hui, c'est que tous les Togolais sont en sursis. Aucun Togolais n'est en sécurité. Si on est capable d'agresser un député de la CEDEAO qui a deux immunités, une immunité sénégalaise, une immunité de la CEDEAO, et qui est en session ici au Togo, mais qu'est-ce qu'on fait alors aux citoyens togolais?
Des journalistes ont été également prise à partie, rossée de coups, certains grièvement blessés, les téléphones et autres appareils enregistreurs arrachés et détruits. Pour Isidore Akolor, directeur de publication de l'hebdomadaire Actu Express, cette violence exercée sur les journalistes est inacceptable.
Ce qui m'intrigue le plus, c'est l'agression sur les journalistes, nos reporters qu'on a envoyés sur un terrain pour collecter les informations et que ces derniers soient pris comme des malpropres, tabassés et d'autres grièvement blessés, ça prouve insuffisance. On veut museler la presse togolaise. On a pris le matériel de travail des professionnels médias et jeté dans un puits. Quel cynisme!
Tout en dénonçant cette violence perpétrée au siège de son parti, Kafui Adjamagbo Johnson, la secrétaire générale de la CDPA, affiche sa détermination à œuvrer pour le changement au Togo.
D'abord, je voudrais commencer à dire que j'ai honte pour mon pays. Vous savez, ce qui se passe là n'entame en rien notre détermination. Parce que le Togo, c'est notre pays. C'est nous qui allons le transformer. Le Togo changera. Il faut qu'il change.
Le front Touche pas à ma constitution s'est élevé également vigoureusement contre cette violence et a dénoncé avec la plus grande fermeté les interdictions répétées et injustifiées des activités des partis de l'opposition. Du côté du gouvernement, aucune réaction pour le moment. Kossi Oussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM. La journée nationale du cacao a tenu toutes ses promesses en Côte d'Ivoire. Les activités liées à cette journée se sont déroulées du 28 au 30 septembre dans la capitale économique ivoirienne avec pour objectif de promouvoir les acteurs de la filière. Ils étaient plus d'un millier à faire le déplacement
pour prendre part à l'événement. Notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenyo, nous fait le point.
Dans ce stand d'exposition, les visiteurs font la queue pour goûter au chocolat 100% ivoirien. Le produit moulu et liquide est ensuite servi dans de petits bols pour les visiteurs qui n'ont pas manqué de l'apprécier. Armel Fofana, visiteur.
Elle est impeccable. Pour nous qui sommes des habitués de du chocolat, je le trouve assez intéressant. Voilà, et puis je crois que il peut passer et chez les adultes et chez les enfants. C'est un très bon chocolat.
Félix Archange, visiteur.
C'est une grande fierté. Une grande fierté pour moi de déguster le cacao made in Côte d'Ivoire. Et j'appelle aussi, je profite de cette tribune pour appeler à la bonne volonté du gouvernement, de l'État ivoirien, de faire tout son possible afin que le cacao, une grande partie de notre cacao, soit transformée sur place.
Le cacao est transformé aussi bien en d'autres produits dérivés. Ici, dans ce stand, on peut voir des produits comme du savon ou du beurre de karité fait à base de fèves de cacao. Bintou Sibi, transformatrice de cacao.
Les avantages de ces savons-là, c'est 100% naturel déjà, à base de beurre de cacao. Déjà, nous savons que le cacao est un puissant antioxydant qui va travailler sur le vieillissement de la peau. Donc, les bienfaits des fèves de cacao se retrouvent dans les savons qui sont là.
Pendant la foire, nous nous sommes rapprochés également du groupe marocain OCP qui est spécialisé dans la distribution d'engrais. Leur objectif est de promouvoir les producteurs ivoiriens et de participer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Louis Coco, groupe OCP.
Je pense qu'on est en plein pied dans le cacao et aujourd'hui, on doit mettre le producteur au centre. Donc le principal défi, c'est comment améliorer les revenus des producteurs de cacao. Et cette augmentation de revenus passe nécessairement par l'amélioration de la productivité et la rentabilité au niveau des agriculteurs.
Les activités de la Journée nationale du cacao se sont étendues sur 3 jours du 28 au 30 septembre au parc d'exposition d'Abidjan. Des milliers de personnes ont pu prendre part à cet événement, le tout dans une ambiance de fête et de célébration. Ange Bijounomignon pour VOA Afrique, Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire. Le Hezbollah a confirmé la mort de plusieurs de ses commandants, dont Hassan Nasrallah, son chef de longue date, dans une frappe israélienne. Un officier supérieur des gardiens iraniens de la Révolution, le général Abbas Nilforushan, a aussi été tué lors de la même frappe sur le quartier général du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Aragashki, a promis que sa mort ne resterait pas sans réponse. Yacouba Ouedraogo a joint ici à Washington DC Walid Fares, écrivain professeur et ancien conseiller de l'ex-président Donald Trump.
D'abord, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est la technologie militaire israélienne qui a été développée pendant des années, surtout pendant les clashs qui ont eu lieu avant avec Hamas. Depuis au moins 10 ans. Ça, c'est un. Et bien sûr, la technologie américaine qu'Israël a pu obtenir, les bus bombers, ces grandes fusées qui peuvent pénétrer plusieurs bâtiments. Deuxièmement, Israël a pu développer des agents, des réseaux aussi depuis des années. Ils ont eu des gens sur le terrain et le plus important, il paraît qu'ils avaient des agents à l'intérieur du Hezbollah.
Quel futur pour le Hezbollah après l'élimination d'Hassan Nasrallah avec certains de ses lieutenants?
C'est une grande défaite, il faut l'admettre, de Hezbollah, mais ce n'est pas la fin du Hezbollah. Ça va, comme on dit, acheter beaucoup de temps pour les Israéliens, peut-être pour qu'il y ait un nouveau changement de politique extérieure américaine. Tout ça va dépendre des élections américaines, mais Israël maintenant a plus de temps pour démanteler pas seulement le commandement de Hezbollah, mais les commandements régionaux. Et aussi, très important, pour convaincre les Libanais, sunnites, druzes, chrétiens et quelques chiites libéraux, que maintenant ils ont le champ ouvert pour demander le désarmement du parti de Dieu. Mais bien sûr, si le régime de la République islamique en Iran va envoyer de l'aide, continuer à envoyer de l'argent et aussi bien sûr reconstituer les réserves militaires du parti et de la milice, ça ne fera que qu'allonger, si vous voulez, la guerre entre les deux parties.
Avant la mort de Hassan Nasrallah, il y a eu celle de Ismaël Haniyeh, le patron du Hamas. Le Hezbollah est soutenu par l'Iran. Comment va réagir l'Iran face à cette situation?
Stratégiquement, Hamas a perdu le terrain. Donc, ils vont continuer comme guérilla. Ils ont aussi perdu un nombre de leurs leaders, y compris Haniyeh en Iran. Ça a été une grande démonstration de force israélienne. Mais le Hezbollah, c'est différent. Le Hezbollah a un champ géographique ouvert entre le Liban, la Syrie, l'Irak et bien sûr l'Iran. Ce qui veut dire que le régime islamique en Iran va continuer à envoyer des renforts et de l'argent à Hezbollah. Mais Hezbollah n'aura plus cette force imminente qui peut bombarder le nord d'Israël. C'est ce que le gouvernement israélien veut accomplir. Maintenant, ils vont attendre les élections. Ils vont voir si la nouvelle administration veut continuer ce qu'on appelle le deal nucléaire, l'accord nucléaire, ou bien si c'est Trump, peut-être, qui va suspendre cet accord et donc joindre Israël, y compris avec les États arabes de la coalition arabe du traité d'Abraham. Et donc là, ça va être défavorable complètement pour le régime iranien. On sera tous attentifs à ce qui va se passer, non seulement durant les élections, mais après l'inauguration en janvier.
Walid Fares, écrivain professeur, ex-conseiller de l'ancien président Donald Trump. Ici même aux États-Unis, les deux candidats à la vice-présidence se préparent pour leur débat qui sera organisé mardi soir à New York par CBS News. Veronica Balderas Iglesias de la VOA examine les thèmes sur lesquels J.D. Vance et Tim Walz vont se concentrer et si le débat lui-même pourrait avoir un impact sur le résultat de la course à la présidentielle américaine. Le récit avec Mouhamadou Oumfa.
Le candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance, a récemment révélé quel sera son principal message aux électeurs lorsqu'il va débattre mardi avec son rival démocrate, Tim Walz.
C'est la candidature de l'équipe des substances, l'équipe qui a un bilan dont nous sommes fiers, et lui que nous fuyons, et l'équipe qui a réellement un plan, c'est l'équipe Trump-Vance.
Dans l'émission This Week sur la chaîne ABC, le représentant républicain Tom Emmer a aidé le sénateur de l'Ohio à préparer le débat de 90 minutes qui sera organisé à New York par CBS News.
Il peut parler de l'économie que Donald Trump a réparée et que Harris et Biden ont brisée. Il peut parler de la frontière que Trump a fixée et qu'ils ont brisée. Et une fois qu'il aura compris que Tim Walz va juste essayer de dévier, de se lancer dans cette histoire populaire, il le tiendra responsable.
Pour sa part, le gouverneur du Minnesota s'est bien préparé à ce débat et a aiguisé ses arguments. Ses messages aux électeurs se concentrent souvent sur les conséquences des élections du 5 novembre.
Tout est en jeu, pas seulement pour les 4 prochaines années, mais pour les 40 prochaines années.
Les droits reproductifs seront probablement l'une des lignes d'attaque les plus fortes de Walz contre Vance, déclare John Mark Hansen, professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago.
Vance pourrait être pressé de savoir si, en tant que président, Trump signerait une interdiction de l'avortement ou une très très courte période pendant laquelle les avortements pourraient être pratiqués dans tout le pays.
Les électeurs ne devraient pas s'attendre à ce que les deux candidats au poste de vice-président fournissent une analyse détaillée des politiques proposées par leur campagne, a aussi noté le professeur John Mark Hansen.
Les débats sont toujours plus spectaculaires que substantiels. Les candidats sont devenus très, très habiles à s'éloigner de la question qui leur était posée et à aborder plutôt un problème qu'ils souhaitent aborder.
Les électeurs qui seront devant le petit écran mardi pourraient savoir si les deux candidats à la vice-présidence leur apportent un sentiment de réconfort. Mais à moins qu'il n'y ait une sorte d'effondrement, comme la contre-performance de Joe Biden face à Donald Trump à la fin du mois de juin dernier, il est peu probable que le débat fasse bouger les lignes dans la course à la présidence des États-Unis.
C'est ici que se termine cette édition du Monde aujourd'hui. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention.
Pour plus d'informations en continu 24 heures sur 24, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Je suis Nani Kisalani. La mise en onde de ce journal a été assurée par Michel Joseph, à la technique Kelvin Fowler. Restez à l'écoute pour plus de programmes passionnants à venir. À bientôt.